oui, transparent, vous voyez. Amen. Vous pouvez mettre le switch. Impeccable. Avant de commencer, je veux rendre gloire à Dieu. Il y a 2 ans, c'est ça, 2 ans, hein, toute notre famille était devant là. Et l'apôtre priait pour nous, Antoine. Rien n'était fait. Il avait commencé à me parler de venir. Mais vous savez, quelques semaines après, il a failli mourir. Quand quelqu'un vous dit quelque chose et qu'il meurt, posez-vous la question. Mais Dieu l'a ressuscité! Ça m'a marqué à vie! Parce que les paroles qu'il dit devant Dieu, ben Dieu dit, attends, tu as un problème au cœur, on va régler ça. Je veux que tu tiennes tes paroles. Et moi, ce matin, je ne suis pas venu pour vous parler de blabla. Je veux que vous puissiez tenir vos paroles. Quelles sont vos paroles devant Dieu? Vos prières? Quelles sont vos paroles? Celles qui déclenchent le royaume de Dieu dans votre vie. Vous avez ici, devant vous, dans cette église, un exemple vivant de Dieu qui dit, quand tu parles à mon nom, même si tu meurs, je te relève. Je veux que ta parole s'accomplisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Amen. Amen. Aujourd'hui, je vois des chrétiens qui sont là, ils disent, oui, j'aime Dieu. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que quand tu pries, tes paroles sont tenues? Est-ce que quand tu dis à quelqu'un, voilà, Dieu t'aime, voilà ce qui se passe, est-ce que ces paroles sont tenues? Et c'est ça que je veux partager avec vous. Alors, on va avoir un temps où je vais présenter deux, trois choses. Le pouvoir, la Pâque, et toi, lève ton bâton, c'est-à-dire qu'on va mettre en pratique. D'accord? Je vais un peu parler, mais vous, après, vous allez tenir vos paroles devant Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, il manque quelque chose. Pourquoi je dis il manque quelque chose? Parce que parfois, la foi, on a 3 manières de comprendre le salut. Quand la croix est venue, eh bien, quand Jésus est mort sur la croix, la foule qui était devant Jésus, la foule qui avait crié, crucifie-le, crucifie-le, on s'en fout de celui-là, il se prétend être Dieu. Cette même foule a frappé sa poitrine. Cette même foule, quand Jésus est mort, qu'il y a eu le tremblement de terre, elle a frappé sa poitrine. Et la Bible nous dit, ils retournèrent en frappant la poitrine. Eh bien, on pense que ça, c'est la foi, que c'est le salut, mais pas du tout. Ça, c'est de la culpabilité, c'est tout. Et bien souvent, tu peux venir à l'église, entendre les choses de Dieu et repartir en te frappant la poitrine, en disant, je vais changer. Je ne peux pas continuer comme ça. Et ça. Mais rien ne se passe dans ta vie. Tu connais ça, moi je connais ça. Et tu es là et tu dis, oui, c'est vrai, ce n'est pas bon, j'ai péché. Et tu dis, non, je changerai, je changerai, je changerai, je changerai. Oui, tu changeras, d'accord. Ça dure combien de temps? Lundi, mardi, mercredi? Oh, tu as fait des efforts, tu as tenu jusqu'à jeudi. Wouh! Oui ou non? On est honnête là, hein? Ça, c'est de la culpabilité. Et comprendre la croix par ce chemin, ça amène à ce qu'on connaît déjà. C'est pas bon. La tristesse, selon Dieu, produit la repentance qui mène au salut. Mais une tristesse que toi, tu te produis, ça amène à la mort. Ce qui compte, ce n'est pas que tu sois triste. Ce n'est pas ça qui compte. Que tu regrettes même tes fautes. Ça ne suffit pas devant Dieu. Ce qui compte, c'est que la tristesse qui t'est donnée vienne de Dieu. Là, oui. La tristesse, selon Dieu, produit la repentance. La tristesse de toi uniquement, du monde, où tu te dis, ah, je suis triste d'avoir fait cette bêtise, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je veux changer. Ça n'amène à rien. Le nombre de personnes qui sont passées ici, le nombre de personnes qui ont demandé pardon à Dieu en disant, je suis triste, je ne veux pas changer et tout, et qu'on ne revoit plus, eh bien, on aurait une église, mais 100 fois plus, on remplirait le stade. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'on a besoin de retrouver et de comprendre le salut, ce que c'est. Le salut, ce n'est pas être triste de mes péchés, ça ne veut rien dire. C'est que de la culpabilité, dit Dieu. Et la foule qui a crucifié Jésus était triste de ses péchés. Elle était triste de ça. Mais est-ce que ça a mené à la repentance? Non, pourquoi? La tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Pas ta tristesse toi-même. Et c'est ça que je veux creuser avec toi. Allons plus loin. Vous êtes d'accord? Je ne vous entends pas. Vous êtes là ou pas? Bon, alors on va plus loin. Regardez ce qui se passe. Le centurion qui se tenait en face de Jésus. Et toutes ses gardes, ce n'étaient pas des petits gars, ça. Hein, c'était des légionnaires. C'est des gars qui avaient l'habitude de donner la mort. D'accord? Et le juif qui était là, mais c'était rien pour eux, sale chien de juif. C'était ça qui sortait de leur bouche. C'était des gens qui étaient des envahisseurs. Et pour eux, Jésus, c'était plus rien. Ce centurion-là, quelques heures avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des ordres à ses soldats. Vas-y, donne-lui un bon coup de poing, montre-lui qu'il est le roi. Pouah ! Il a donné des ordres à ses soldats. Arrache-lui la barbe, on va voir si c'est qui c'est. Pouah ! Il a donné des ordres à ses soldats. Vas-y, flage-les. Non, prends pas ce fouet, prends celui-là. C'est avec les os qui sont là, que quand tu donnes un coup dans le dos, que tu donnes un coup de poignet, ça t'arrache la moitié de la peau. Vas-y, frappe-le. C'était lui. Parce que c'était lui le chef de la cohorte. Et cet homme devant Jésus. Alors qu'il voit Jésus, la Bible nous dit, et qu'il voit la manière dont Jésus meurt. Tremblement de terre, cet homme dit, il était vraiment le Fils de Dieu. C'est pas merveilleux ça? Eh bien ça, c'est inutile. C'est mieux que tout à l'heure. Mais c'est pas une foi qui t'amène à Dieu. Tu sais pourquoi? Ça, c'est simplement quand les gens me disent, « Oh, moi je crois en Dieu. » Je crois en Dieu, oui, tu as raison de croire en Dieu. Vous savez quel est le niveau de cette foi? La Bible dit, cette foi-là, c'est la foi des démons. Voilà, Jacques nous dit, croire que Dieu existe, très bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. D'accord? Est-ce que ça amène le salut? Zéro. Donc si tu viens les dimanches ici, et que tu passes ton temps à dire, moi je crois en Dieu, mais il y a d'autres dieux, mais moi je crois en Dieu, ça ne t'amène rien. Tu es au niveau de la foi des démons. C'est mieux que la culpabilité. Mais les démons, eux, la Bible dit, au moins ils tremblent. Toi, non, tu prends ton café le matin et tu pêches, tu t'en fiches. Ok? Ce que je veux faire comprendre, c'est que le salut est beaucoup plus loin qu'une culpabilité ou de croire que Dieu existe. Allons plus loin. Est-ce qu'on va plus loin? Je ne vous entends pas. Bon, on va plus loin. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là? Marie-Madeleine et Marie, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont acheté des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et elles disaient en chemin, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Wouh ! Il y a un problème. La pierre est... Je ne vous entends pas. La pierre est... On a le même évangile ou quoi? La pierre est... J'entends pas. La pierre est... Ah! Je me disais, on a changé de Bible ou quoi? Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez beaucoup de gens qui ont du zèle pour Dieu. Ils mettent leur argent. Ils achètent des aromates. Et là, Marie, Madeleine et Marie, elles ont acheté des aromates. Mais ça coûtait cher. Elles ont mis tout leur argent. Quand vous lisez ça, quelle est la première question qui vient à votre tête? Ben, où sont les aromates? Elles ont mis du fric pour acheter les aromates, mais ça ne servait à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la peine d'embaumer Jésus. Il est vivant! Il est vivant! Le nombre de gens qui vivent une foi de leur complaisance, de leur manière de dire « moi je crois en Jésus » comme ça. Ben oui, tu mets des aromates, tu viens tous les dimanches. Tu payes ton prix, tu sers Dieu, tu fais des offrandes, tu fais tout ce que tu veux. Mais une chose se passe, rien n'est bougé dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu es toujours en train de dire, mais qui va changer ma vie? Qui va rouler la pierre? Et tu ne vois pas que Dieu a un autre plan pour toi. Le plan que Dieu avait prévu pour ces femmes n'est pas qu'elles achètent des aromates, mais qu'elles puissent connaître que Jésus soit ressuscité. C'est bien mieux, non? Enfin, vous préférez avoir un Jésus mort ou vivant? Je sais pas, on est ensemble ou pas? Jésus vivant? Oui ou non? Oui! Bien sûr! Donc là, il y a trois manières. Et la Bible nous dit, prenez garde des personnes qui vous emploient dans des philosophies. Ouh. fait comme ça. Des traditions vaines des hommes. Ce que la Bible appelle les principes élémentaires qui étaient nécessaires. Dieu n'a rien contre toutes les religions. Dans toutes les religions, Dieu met un peu de ses épices. Il n'a rien contre ça. Mais Dieu a évolué depuis. D'accord? Est-ce que ça vous prendrait à vous l'idée d'appeler une pizza en faisant du morse? Ou d'appeler une pizza en faisant signaux de fumée? Ça, vous le ferez ça? Ben non, c'est l'exemple des religions. Dieu, entre-temps, a évolué. Je vous ai ouvert un peu le livre que je suis en train d'écrire, « Dieu a-t-il un smartphone ?» Mais ça, c'est autre chose. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous contexte à son gré le prix de la course. Moi, j'ai peur quand les gens sont trop humbles, voyez-vous. Oui, mais c'est Dieu qui l'a fait. Ça veut dire quoi, ça, c'est Dieu qui l'a fait? T'étais là, toi? Moi, quand mes enfants m'ont dit, « Papa, on m'a dit que pour chercher ma bien-aimée, il faut que je demande à Dieu de me la préparer. » Je dis, « Attention, fais attention à ça. C'est toi qui l'embrasse, et c'est pas Dieu. Hein. » Non, mais on part dans plein de trucs. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut croire à des choses, acheter des aromates, embaumer Jésus, prendre ce qui est bon, dire, oh, la mémoire de Jésus, elle est bonne. Oh, ce que Jésus a fait, c'est bien. Et ça n'a aucun impact dans ta vie. Et Dieu dit, tes aromates, c'est dommage, c'était de l'argent perdu. La foi, le salut, ce n'est pas de la culpabilité. Ce n'est pas croire en Dieu. Et ce n'est pas se faire sa propre idée du salut de Dieu. Il y a autre chose. Et là, c'est là où je veux envoyer. Que nous dit la Bible? Et j'aimerais qu'on le lise ensemble. 1, 2, 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On continue ensemble. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On continue ensemble. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Ah, il y a déjà quelque chose d'intéressant. Elle est venue chez les siens. C'est pas marqué. Elle est venue parmi ses créatures. Oh, Seigneur, tu es en train d'attirer mon regard. Les siens, tiens. Je suis lié à la nature divine. On continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Il y a eu moins de personnes qui ont parlé, alors on ne va pas faire de jaloux. Les dames, uniquement les dames. À vous, 1, 2, 3. Les hommes, allez-y, mettez un peu plus de pêche quand même, hein, allez-y. Il y avait plus de pêche, c'était un peu plus brouillon. Alors, tous ensemble, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Amen. Elle a donné le pouvoir. Si tu n'as pas de pouvoir dans ta vie, tu as un problème. Soit tu vis une culpabilité, soit tu crois en Dieu, ou soit tu as ta propre image et ta propre religion. Devenir enfant de Dieu ne vient pas de nous. On te donne un pouvoir. On continue. Et qui sont nés... Oh, je suis tout seul là. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que tu ne nais pas parce que même tu veux changer. Souvenez-vous, la culpabilité. La culpabilité, attention. Quand je dis ça, je ne me moque pas des gens parce que je le vis aussi. La culpabilité, c'est que je veux changer. C'est que je suis fatigué de voir mes erreurs. Mais la Bible me dit, Georges, tant que tu es dans ça, c'est ta volonté de la chair. Tu veux changer. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'as pas le pouvoir de te changer. Tu n'as même pas le pouvoir de perdre du poids. Ça, c'est ma femme qui me dit tous les jours. Mais ici, la parole de Dieu est dit, mais cette volonté, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce n'est même pas dans ta volonté d'homme. Combien de fois je vois des gens qui disent, oh, je viens à Jésus parce que je veux changer, parce que ça... J'ai dit, d'accord. Et là, on aide la personne à comprendre que ce n'est pas parce que tu veux changer que tu vas changer. Mais Jésus veut te donner un pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et dire merci au Seigneur? Allez, levons-nous un moment. Seigneur, Je veux m'arrêter là, Seigneur, au milieu de ce... Parce que je veux te dire merci d'être venu nous sauver. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci d'être venu nous sauver, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus, merci. Oh, Dieu, de nous avoir tant aimés. D'avoir donné Jésus, ton Fils. Seigneur, viens encore réveiller nos cœurs. Nous voulons entrer dans ton salut, Jésus. Amen, amen. Amen. Asseyons-nous. Il faut savoir nous arrêter. Vous avez remarqué dans les psaumes, parfois vous avez le mot pause. C'est David, au milieu même de sa louange, il s'arrête. Et il se redit, Seigneur, je veux simplement reconnaître que c'est toi. Mes amis, dans ce que je dis, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas mort pour vous. Jésus est mort pour vous. Je ne suis pas digne de parler. Je suis pécheur comme vous. Mais je veux m'arrêter pour lui rendre gloire. Parce que le salut vient de lui. Et il veut nous le communiquer encore ce matin. Et il veut qu'on grandisse dans notre salut. Amen. Alors, il y a donc un pouvoir qui n'est pas de ce monde. Vous l'avez compris, on avance. Ce pouvoir de nous transformer, de nous sauver, eh bien, il ne vient pas de nous. Vous l'avez compris ? On avance. Alors, Galates 3 nous dit, « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Beaucoup de gens me disent, « Georges, je n'ai pas la foi. » Je dis, « C'est bien, tu es au bon endroit, moi non plus, je n'ai pas la foi. » Parce que la foi n'est pas de ce monde. Elle n'était pas là. Il a fallu qu'à un moment, la foi vienne. Avant que la foi vînt, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'humanité où la foi n'existait pas sur la terre. Il a fallu un moment que la foi vient sur la terre. C'est pour ça qu'il est écrit, quand on parle de la foi, par la foi, tout le monde, tous les écrits parlent de ce temps-là. Mais nous, on lit la Bible 2000 ans après. Et on oublie que le contexte dans lequel ils écrivaient, ils étaient conscients qu'il y avait un temps avant où la foi n'existait pas et un temps où la foi est apparue. Et c'est de cette foi-là que Dieu parle. Pas de ta croyance ou de croire en Dieu avant que cela vienne. Paul dit, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi. Quelque chose de nouveau arrive. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi. Ça veut dire quoi? Quelque chose a changé dans l'humanité. La foi est venue. Il y a eu un avant et un après. Et c'est ce que Dieu veut créer en toi. Un avant. Et un après. Un avant où tu crois en Dieu, culpabilité, tu crois en Dieu, ou peut-être tu as ta propre vision de Dieu, mais rien ne se passe dans ta vie. Ou si peu. Et un après, où la foi est en toi, et là il y a un pouvoir qui ouvre ta vie. Et c'est là le changement. Vous comprenez? Est-ce qu'on avance ensemble là? Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Wow. Pas par une autre manière. C'est cette foi qui est venue sur la terre à ce moment-là qui fait de toi un fils de Dieu. Pas le fait que tu crois en Dieu à ta manière. Pas le fait que tu es là et que tu dises, on l'a vu, hein, culpabilité, croire en Dieu. C'est pas ça qui fait de toi un fils de Dieu. C'est par la foi. Alléluia. Alléluia. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Comment? En effet, la justice s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, la base même de l'évangile. Et dans cette dynamique-là qui est venue, qui n'existait pas dans notre humanité, et qui un jour est venue et nous a été donnée. Tant que tu ne vis pas ça, tu peux passer le reste de ta vie à courir, à venir à l'église, à faire ça. Mais est-ce qu'il y a un impact? Or, c'est la foi. Veux-tu savoir, ô homme, vain que la foi sans les œuvres est inutile? Ça, c'est Jacques. Parce que les gens disaient, oui, mais moi j'ai la foi, je crois en Dieu. Et Jacques posait exactement la même question que je pose aujourd'hui. Il dit, attends, ok, tu crois Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Elle est là, la vraie question. Ça fait combien de temps que tu viens dans cette église? Ça fait combien de temps que tu avances? Est-ce que ta vie progresse? Tu pourrais me dire, oui, Georges, ma vie progresse. Bien. Est-ce que tu connais des impasses? Oui, je connais des impasses. Ah, on a tous des impasses. J'ai des impasses. En ce moment, je vis des vrais combats de la foi. Tu as mes propres impasses. Parce que continuellement, Dieu veut m'amener plus loin. Le problème, c'est que Dieu dit, je t'ai sauvé, mais toi, tu restes encore à boire du lait. Mais Jésus préparait ses disciples là-dessus. Alléluia! Et on va voir comment. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia! Je veux vous entendre dire avec moi ça. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà! Si constamment tu tombes par terre, si tu chutes, si ta vie est triste, et que gna gna gna, pourquoi je vais à l'église encore ce matin, c'est mieux que de regarder le match de foot, ben là, tu as un gros problème. D'accord? Parce que Dieu veut faire de toi un homme victorieux. Tu n'es pas né en Christ pour rester dans la poussière. Sinon, ça sert à quoi? Voilà. On est tous d'accord. Mais ce matin, on va avancer ensemble. Parce qu'on veut voir la victoire de Jésus. Amen. Alors, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La Bible nous révèle que celui qui est l'auteur de la foi, d'autres écrits disent l'auteur de la foi, c'est Jésus. Et Jésus, vous n'êtes jamais posé la question. Jésus, il est mort, il est ressuscité, et puis au bout de 40 jours, il se barre. Et là, on dit, Seigneur, attends, t'as pas un problème, là? Attends, nous, quand on veut assurer que les choses se passent bien, ben, je peux vous dire, on assure que tout va bien. D'accord? Bon, j'y vais. Vous pensez, hein, le linge, ça, c'est mon ami, le linge, là, les enfants, vous faites ça. N'oubliez pas, hein, puis range ta chambre, hein, Julien. Ils sont là, mes garçons. Donc... Mais ça, c'est notre vie humaine. Déjà, on le fait. Jésus, il laisse derrière lui des branquignols, des gars qui l'ont trahi. Voilà, qui sont comme ça. Il s'en va. En fait, Jésus avance par la foi. Parce que pendant 3 années, il a essayé et il a voulu transmettre à ses disciples comment vivre la foi. Mais il ne pouvait pas la vivre. Il n'y a que lui qui la vivait. Mais une fois que Jésus est mort et ressuscité, vous et moi, maintenant, nous pouvons vivre ce que Jésus a vécu. C'est ça qui est magnifique. Je vous donne un simple exemple, ce que je pourrais en dire beaucoup, mais là, je veux rester sur un. Dans Matthieu, vous le lisez, Jésus dit « Allez de l'autre bord ». Jésus dort dans un coussin et c'est une tempête, oui ou non? Vous la connaissez, cette histoire. Que fait les disciples? Ils sont en train de mourir. Ce n'était pas la petite tempête flic-floc, c'était des disciples qui avaient l'habitude de la mer. Jésus, il dort dans un coussin. Vous avez déjà du mal à dormir quand il y a un chien qui aboie, alors d'imaginer quand il y a une tempête comme cela. Mais il dort dans un coussin. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi il ne s'est pas réveillé? Continuons. Et là, il y a les disciples qui arrivent, ils sont tous trempés. Jésus, réveille-toi! Jésus, réveille-toi! Ne vois-tu pas qu'on va mourir? Jésus se lève. Il dit, mais pourquoi vous avez peur, gens de peu de foi? Et là, je me pose la question, très simple. Seigneur, ça fait des années que je vis dans les églises. La première chose qu'on m'apprend quand j'ai un problème, va prier Jésus. Et là, je viens à toi, j'ai un gros problème, je prie, tu me dis, homme de peu de foi. Vous vous sentez le paradoxe? Il n'y a pas un mystère que Dieu veut nous enseigner là? Plus tard, Jésus dira, juste avant sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 15, vous le lirez. Jésus dit, vient le moment où vous prierez en mon nom. Mais beaucoup de gens pensent que prier en mon nom, c'est une genre de formule. Si je ne mets pas le nom de Jésus dans ma prière, ma prière n'est pas écoutée. Ça, c'est du spiritisme, occultisme, tout ce que vous voulez. Jésus dit, je ne dis pas que moi, je prierai le Père pour vous. C'est vous qui prierez en direct. Wouh ! Je vais vous le lire parce que je vois que vos yeux sont encore un peu dans... Réveillez-vous, il n'y a pas du café ! Voilà. Jean... Alléluia, le Seigneur veut qu'on aille plus loin. Il faut que les murs tremblent. Alléluia. C'est dans Jean chapitre 16. Ah, Seigneur. Jean chapitre 16, verset 26. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, écoutez bien, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Vous n'y croyez pas, hein? Bon, je le relis. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé le premier. Jésus disait, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Et combien de fois nos prières sont d'abord, oh Jésus, fais-le, oh Jésus, fais-le, oh Jésus, fais-le. Et Jésus nous regarde et dit, va voir là. Oh Jésus, fais-le, oh Jésus, fais-le, oh Jésus, fais-le. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Oh Jésus, fais-le, oh Jésus, fais-le. Seigneur, mais comment je fais? Ben, c'est ce qu'on voit. Et on va voir ce que le Seigneur voulait leur enseigner là. On continue. Quand Jésus veut parler de lui, il commence par Moïse et par les prophètes et il explique qui il est. Vous le lirez dans après la résurrection, quand il parle avec les disciples d'Emmaüs. C'est la première fois que vous voyez Jésus évangélisé. C'est un modèle parfait. Les gens ne savent pas qui il est, lui se présente pas. Mais pour expliquer qui il est et pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, eh bien, il passe par le modèle que Dieu a fait. Et quel est ce modèle de Moïse? C'est la Pâque. On en sort, vous avez encore du chocolat dans les dents, c'est la Pâque. D'accord? Qu'est-ce qui se passe de l'époque de la Pâque? Eh bien, c'est la Pâque de l'Éternel, dit Dieu. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays, tous les animaux. Wouh! J'exercerai les jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruira quand je frapperai le pays d'Égypte. Mes amis, le plus important déjà, là, c'est de comprendre que la Pâque ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre Pâque, ce n'est pas à nous, notre petit bijou. Non, c'est à Dieu. C'est la Pâque de l'Éternel. Et Dieu dit, il nous dit à nous, vous êtes pour rien. Poussez-vous, dégagez, je ne veux pas vous voir. Je ne veux pas vous voir ce jour-là. La seule chose que je veux voir, c'est un signe. Vous mettez du sang. Si je vois autre chose, vous êtes mort. Vous entendez? Vous êtes mort. Mes amis, ce n'est pas le Dieu gentil. C'est le Dieu qui vient faire son jugement sur l'homme Adam qui a choisi sa propre volonté contre son père, sur le diable. Et là, Dieu veut dire au diable, maintenant je règle ton compte. Mes amis, je veux que vous compreniez quelque chose. Le diable tremble devant Dieu. Pourquoi nous tremblons? Parce qu'on ne voit pas notre rang. On ne voit pas notre rang. Quel est le rang du diable? Lucifer, avant qu'il nous approche. Lucifer, c'est porteur de lumière, c'est un ange gracieux, un chérubin. Il a plusieurs ailes. Pourquoi? Parce qu'il est proche du trône de Dieu, parce qu'il apporte la perfection de Dieu. Et quel est son rôle? D'amener la perfection de Dieu. Mais quel est son rang devant l'homme? Quand il se présente à l'homme avant la chute, comment on l'appelle? On l'appelle animal. On l'appelle animal, rusé comme un serpent. Le serpent n'a rien à voir, le serpent il n'est pas maudit par Dieu. Dieu l'a sauvé, le serpent n'a rien à voir. Et si c'était une malédiction, Jésus n'aurait même pas pris un exemple sur le serpent. Il a dit, soyez prudents comme des serpents. Le serpent, l'animal, n'a strictement rien à voir. Ça, c'est la confusion humaine encore. Mais quand Lucifer se présente, il se présente dans son rang. Il est plus petit que l'homme. Et son rang, c'est un animal, c'est un serviteur. Animal, ça veut dire serviteur. Rusé. Et on croit qu'il a tout pouvoir. On croit même qu'il nous maudit. Ah ! Ça, c'est la plus terrible des mensonges. Où vous avez vu une seule fois dans la Bible que le diable a le pouvoir de vous maudire? Cherchez-moi ça. C'est le plus gros des mensonges. La seule personne qui maudit, la seule personne qui bénit, c'est Dieu. Dieu dit en Ésaïe, de ma bouche sort la bénédiction et la malédiction. C'est tout. Et dans Lévitique, vous avez la loi de Dieu. D'un côté, la page des bénédictions qui sort de la bouche de Dieu. Et d'autre côté, la malédiction qui sort toujours de la bouche de Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est de te tromper. Parce qu'il sait très bien que tu ne peux pas accomplir la parole de Dieu. Donc il te mène dans un endroit pour que cette parole de Dieu qui est bénédiction se transforme en malédiction. Regardez, Dieu dit, mange de tous les arbres, vous êtes d'accord avec moi, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qui c'est qui a dit ça? C'est le diable ou c'est Dieu? C'est Dieu. Que fait le diable ? Viens, viens voir l'arbre. Tu as vu, regarde comme il est beau, etc. Est-ce que c'est lui qui crée la malédiction ? Pas du tout. Mais parce que l'homme a mangé, s'accomplit sur l'homme la parole de Dieu. Qui c'est qui l'a dit ? C'est Dieu. Dieu a dit, si tu en manges, tu mourras. Si tu n'en manges pas, c'est une bénédiction pour toi. Mais si tu en manges, tu mourras. Qui tient la malédiction ? C'est Dieu. Qui tient la bénédiction ? C'est Dieu. Le diable ne tient rien du tout. Rien du tout. La seule chose qui tient maintenant, comme il a perdu son rang, il n'a plus les pensées de Dieu en lui, le Seigneur lui dit maintenant, c'est de toute cette histoire, c'est le seul animal, être qui est maudit. L'homme n'est pas maudit. La terre sera maudite à cause de toi, mais l'homme n'est pas maudit, mais le diable est maudit. Toi, tu es maudit. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait ? À partir de maintenant, ta nourriture n'est plus la parole de Dieu, mais ta nourriture devient les pensées de l'homme. Tu mangeras de la poussière. L'homme est poussière. Et c'est lui qui nous souffle. Mais Dieu veut nous sortir de là. Et Dieu dit, ça c'est mon problème, c'est pas ton problème. T'occupe pas du diable, ça c'est mon problème. Et le diable, il constamment, viens me voir, viens me voir, viens me voir. Et Dieu dit, c'est mon problème, c'est ma Pâque. Je vais descendre comme un bulldozer. Je vais tout raser là. Je vais mettre mon jugement. Et le diable va trembler. Les dieux du Pharaon vont trembler. Ils vont lâcher mon peuple. Mais toi, écoute-moi, je ne veux pas te voir, t'entends, je ne veux pas te voir, mais un signe. Le signe, c'est le sang. Quand je vois le sang, je passe dessus. Je ne vois pas le sang, t'es mort. Voilà ce que dit Dieu. Je ne veux pas te voir. Ne t'occupe même pas de moi. Ça, c'est mon problème. C'est la Pâque de l'Éternel. Et regardez ce qui se passe. Les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Alléluia ! Mes amis, vous avez pour la première fois écrit dans la Bible les mots même de Pharaon, du diable, qui dit « Je laisse partir ce peuple. Partez !» Mes amis, quelles que soient vos situations, à cause du sang de l'agneau, le diable a déjà craqué, il va craquer pour vous. Amen. Pour vous faire sortir de son emprise. Mais est-ce que ça vous sauve ? Rien du tout. Attends, tu peux redire ça, Georges ? Est-ce que le sang les a sauvés, là ? Non. Le sang n'a fait que les sortir du pays d'Égypte. Mais ils n'étaient pas encore sauvés. Ah, et là, ils sont en train de... Oh, ok, on continue. Qu'est-ce que c'est qui sortait ? Qu'est-ce que c'est qui marchait devant le peuple ? La nuée, d'accord avec moi ? Bougez cette fille, excuse-moi, tiens, 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 voilà. La nuée marchait devant le peuple et Dieu est à l'initiative. Que dit Dieu ? Vous le lirez, je n'ai pas le temps là, je vous le lirai. Dieu dit, comme j'ai peur, on a un raccourci, mais je ne veux pas passer par le pays des Philistins de peur que la guerre soit trop dure et que ça les décourage. Que fait Dieu ? Dieu dit, je les amène dans le désert. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Hein. Nous, on a envie de raccourcis, de Seigneur, j'ai envie de partir rapidement. Non, je te mets dans le désert. Et en plus, devant une mer. Et là, qu'est-ce qui arrive ? Alors, est-ce qu'ils étaient sauvés, là ? Eh bien, non. C'est ça que je veux faire comprendre. Bien souvent, on dit par le sang, mais on ne comprend pas ce qu'on veut dire. Dieu veut aller plus loin. Donc là, Pharaon arrive et il attaque le peuple. Et tout le peuple est en train de dire « On va mourir !» Et vous voyez les accents, ça je vous le lis parce que ça vaut le coup quand même. Hein. C'est dans Exode. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'avez que du McDo. Et le McDo, ça fait grossir, mais spirituellement, ça n'a rien à dire. Donc vous allez revenir des chrétiens McDo, oh, je vais à l'église. Mais impact zéro dans la vie. Si vous ne prenez pas cette Bible, vous êtes perdu. D'accord ? Alors, regardez ce qui se passe. Il y a Pharaon qui arrive. Il attaque le peuple. D'accord ? Et regardez ce que dit le peuple. Il dira à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte que tu nous as amenés à mourir dans ce désert ? Pourquoi on n'est pas resté en Égypte ? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? N'est-ce pas ce qu'on te disait ? Laisse-nous servir les Égyptiens. « Car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Oh ! Combien de fois j'entends ça ? J'ai donné ma vie à Jésus, mais ça n'a rien changé. Le voisin, son chien, il continue, et ma femme me fait toujours les mêmes problèmes. Ça sert à quoi la prière ? je préférais encore ne pas parler de Jésus, parce que comme ça, au moins, on prend l'apéro quand, tranquille. On a le confort. Alors ne viens plus parler de Jésus, ça ne marche pas. D'accord ? Oui, mais il y a le sang qui... Ah, ça ne marche pas ! T'entends ? La maladie est toujours là. J'ai toujours des problèmes de finances. Et moi, j'ai eu un couple qui est parti comme ça. Et il disait, les prières, ça ne marche pas. Ma femme lui dit, tu lui réponds ? Je lui dis, non, laisse-le. Il va voir rapidement qu'il a besoin de prière. Que dit Moïse ? Oh, c'est tellement magnifique. Moïse dit, bon, calmez-vous, hein. Restez en place. Ça, c'est Moïse, restez en place. Voyez comme Dieu va vous sauver aujourd'hui. Moïse, c'est toujours pas. Mais bon, voyez comme Dieu va vous le faire. OK ? Et ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Et regardez Dieu qui arrive. Hein, c'est quoi ce problème, Moïse ? Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se mettent en marche. Je vous lis la Bible. Qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen de Pharaon et de toute son armée, de ses chars, de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen de Pharaon et des chars. Alléluia. Moi, je suis Moïse. J'écoute Dieu me parler à ce moment-là. Ça brûle, c'est la panique. La mer, elle est calme devant moi. C'est la chose calme, d'ailleurs. Et puis Dieu me dit, qu'est-ce que c'est quoi ton problème ? Ben, tu vois le peuple, tu leur dis qu'ils marchent tout droit. Bien le lien. Il y a une mer. Hein. Je vous rappelle que devant, ils voient la mer. Tu dis au peuple, marche tout droit. OK. Jusque là, je suis. Tu prends ton bâton et tu fends la mer. OK. Jusque là, je suis. Écoutez la troisième. Et moi, je vais voir Pharaon et je vais lui dire, continue à le suivre. Attends, Seigneur, tu n'es pas censé me protéger, là ? Attends, encore la première, j'accepte. Le peuple, allez-y, avancez. On ne sait pas ce qui va se passer, elle est un peu froide, mais avancez. Le deuxième, prends ton bâton et fends la mer. Bon. Mais le troisième, Seigneur, je suis censé dire au peuple que toi, tu pries pour nous et tu nous délivres. Et toi, tu me dis, je vais dire à Pharaon, vas-y, massacre-les, massacre-les. Je vous traduis, mais c'est ce qui est marqué là. Et moi, quant à moi, je reprends même la première fois que je l'ai vu, j'ai dû changer 3-4 fois de lunettes parce que j'arrivais pas à comprendre. Quant à moi, on répète, parle aux Israélites, qu'ils se mettent en marche. Il y a la mer. Hein. Toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la. Okay. Quant à moi, dit Dieu, c'est moi qui parle. Moi, je suis Dieu. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière toi et qu'ils te tuent. Wow. Seigneur, il n'y a pas un problème là. Ah, mais là, il y a un mystère. Il y a un mystère. Mets-toi en marche. Lève ton bâton. Et moi, je vais dire à Pharaon de continuer de t'attaquer. Mais Dieu dit, tu vas gagner. Le problème que l'on a, c'est avec les trois. Mais regardez ce qui se passe. Le plus important dans ce texte, c'est que regardez verset 14. L'ange de Dieu qui allait devant le camp partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit devant eux et se tint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Jusqu'à maintenant, Dieu a dit, c'est ma Pâque, c'est mon problème. Le sang qui coule, c'est moi. Mais maintenant, pour fendre la mer, pour ouvrir ta destinée, ce n'est plus mon problème, c'est à toi. Quant à toi, tu vas te mettre en avant. C'est ça la conversion. C'est de dire, arrête de regarder ton passé, rentre dans quelque chose de nouveau. Tu vas te mettre en avant. Et je peux vous dire que ce texte-là, normalement, vous devez le connaître par cœur. Parce que je connais un homme ici qui n'arrête pas de dire en avant. Ah, y a que moi qui l'ai entendu ? Il y a un homme ici qui n'arrête pas de dire en avant. Il y a un homme ici qui n'arrête pas de dire en avant. Ouais, il n'est pas tellement fort, votre en avant. Hein. En avant ! Dieu dit, marche ! En avant ! C'est-à-dire, fais taire, mets le silence dans ton âme. Mets le silence ! Et toi, continue à marcher. Deuxièmement, lève ton bâton. Wouh ! Lève ton bâton. On va voir ça après. Et moi, je dis à Pharaon de continuer de t'attaquer. Mes amis, ce qui se passe, c'est que la nuée qui était devant, Dieu montra à Moïse, maintenant je m'en vais, et maintenant je me mets derrière, entre Pharaon et toi, et j'attends tranquillement que tu fasses le job. La Bible dit que là, Dieu a laissé Moïse tout seul. Alors moi, j'imagine qu'on a les films. Moïse qui prend son bâton. Par la force du bâton. Bon, il prend son bâton et... Vous savez, les animés. La mer qui se lève et tout. Non, je pense qu'il a fait... Plouf. Ne regardez pas encore. Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, le vent est venu. Un vent est venu. Et il a soufflé et a fendu la mer. Amen. Et quand cette mer s'est ouverte, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est entré. Et Dieu qui était dans la nuée, qui était derrière, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il tient parole. La Bible nous dit, la nuée s'en va. Allez-y, Pharaon! Allez-y! Allez-y! Et Pharaon, c'est pas moi qui le dis, vous le lisez, hein? Et là, tu dis, mais Seigneur, tu n'es pas censé me sauver! Et la Bible nous dit que là, Dieu, du haut de la nuée, ralentit la marche de Pharaon. Et moi, je dis, Seigneur, pourquoi tu ralentis la marche de Pharaon? Tu n'aurais pas pu dire à Pharaon d'entrer, dégage? C'était bien mieux. Hein. Et le peuple passe. Alléluia. Et maintenant, regardez. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage. Alléluia. Je ne vous entends pas. Juste avant, par le sang, Dieu a dit, je sors le peuple, mais il n'est pas encore sauvé. Mais quand le peuple a passé la mer et que tous les Égyptiens sont morts, là, Dieu déclare par le Saint-Esprit, maintenant, ce jour-là précis, tu es sauvé. C'est là qu'on ne comprend pas. Les gens pensent que c'est le sang de l'agneau qui te sauve. Oui, il te sauve. Pourquoi? Parce que Dieu traite avec le diable. Mais toi, tu n'y es pour rien. Et Paul dit, si c'est uniquement la croix de Jésus, vous êtes les plus malheureux des hommes, dit Paul, 1 Corinthiens chapitre 15. Si Jésus n'est pas ressuscité. Et beaucoup de gens vivent comme si Jésus n'était pas ressuscité. Oh, la croix, la croix, la croix. Mais ce qu'ils ont prêché, c'est la résurrection. On est capable de croire à la croix. Regardez nos carrefours, ils en ont plein de croix. Mais regardez s'il faut croire à la résurrection. Regarde la difficulté. Et Dieu a commencé à prêcher ça avec Moïse. Parce que quand Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, d'accord? La vraie question, c'est quel bâton as-tu? Moïse a levé le bâton de Dieu. C'est ça qui compte. On dit, mais attends, ce n'était pas le bâton de Moïse? Oui, c'était le bâton de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé à la rencontre de Moïse et de Dieu? Ils sont dans le buisson ardent, d'accord? Et Moïse lui dit à Dieu, attends, tu t'es trompé de gars, moi je bégaye, je ne sais pas parler, je n'ai pas envie de les revoir, j'aime pas les Égyptiens, choisis quelqu'un d'autre. Et Dieu dit, Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit, alors, prends ton bâton. C'était le bâton de berger, c'était son bâton. Le bâton de berger, c'est pas celui qui mange. C'était le bâton. C'était le bâton, c'était l'autorité de l'homme, c'est son autorité, ce qu'il a, d'accord? Il est dans le désert, quelle est sa plus grande peur dans le désert? Ben, c'est le serpent. Donc Dieu lui révèle, il lance le bâton, qu'est-ce que c'est qu'il y a? C'est le serpent. Tu as essayé d'attraper un serpent, mon fils, là, non, je peux te dire que quand tu veux attraper un serpent, elle est où la tête, elle est où la queue, tu ne sais pas où elle est. D'accord? Mais il a pris ça. Et Dieu a dit, tes plus grosses craintes, on va les traiter ensemble. Et puis il a mis la main dans son cœur, il a montré la lèpre. Elle a dit, maintenant, remets. Et c'était ça. Et là, on voit l'action, à la fois je vais gérer la gestion du diable dans ta vie, mais je vais t'amener un nouveau cœur, nouvelle création. Quand Jésus parle, il dit, si l'homme ne naît de nouveau, qu'est-ce qu'il met ? Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Quand Moïse lève le bâton à ce moment-là, ce n'est pas son bâton. C'est le bâton de sa communion avec Dieu, qu'il est une nouvelle créature. Et au moment où il le lève, vous retrouvez comme dans la Genèse, quand vous lisez la création, qu'est-ce qui se passe ? L'Esprit de Dieu soufflait au-dessus des eaux. Et là, le vent puissant de l'Est, c'est l'image du Saint-Esprit, souffle. Pourquoi ? Parce qu'il amène sur la terre la réalité de qui tu es en Christ. La nouvelle création. Mes amis, Dieu vous a donné un bâton. Quel est ton bâton ? Comment attaques-tu ? Est-ce que tu viens attaquer ta vie simplement avec ton propre bâton ? Ou est-ce que tu viens avec ce que Dieu t'a donné ? Tu pourrais me dire, mais Georges, ma maladie est tellement grande, elle est tellement énorme, ou mon problème est tellement grand. Et ça, c'est le mensonge du diable. Le mensonge du diable, c'est que tu vois, ta maladie est tellement haute qu'il te dit, il faut que tu aies une foi grande comme ça, tu vois. Et même va plus haut avec ta foi. Il faut que tu jeûnes, que tu pries. Il faut que... Et comme ça, un jour, peut-être, Dieu va t'écouter. Jésus dit non. Tu as besoin d'un simple bâton. Et ton bâton, c'est quoi ? C'est ton petit grain de sénévé. La plus petite communion que tu as avec Jésus suffit pour détruire le diable, pour que tu ouvres le chemin. Mais moi, je ne peux pas le faire, dit Dieu. Moi, je peux me mettre entre le diable et toi et t'aider. Vas-y, vas-y, fais ton expérience, vas-y. Parce qu'à partir de maintenant, quand le diable t'attaque, c'est sous mon autorité. Parce que je veux te faire grandir. Et je veux te montrer que tu es au-dessus de lui. Que tu es d'une autre création. La première chose que Jésus vit en sortant du baptême, c'est quoi ? Conduit par l'Esprit de Dieu, il est amené à affronter le diable. Est-ce que le diable voulait ? Pas du tout. C'est conduit par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Dieu qui dit, toi avance, moi je dis au diable, continue à l'attaquer. Ah ! Pourquoi ? Parce que mon enfant, tu vas le massacrer. Mais comment tu veux l'apprendre si tu ne l'affrontes pas ? Comment tu veux l'apprendre si tu te bats avec les armes de cette terre ? La seule chose qui suffit dans ta main, c'est un bâton. C'est-à-dire cette communion, cette relation que tu as vue avec Dieu. Tu commences à peine dans la vie chrétienne, ça suffit. Il y a 2 ans, quand on était... Non, ça fait 6 ans. Tu arrives à la maison. Ça faisait 1 an qu'on avait loué notre maison en Normandie. Et juste, on venait de vendre notre maison. Le lendemain, le propriétaire m'appelle. On se trouve dans un bar, on boit une bière ensemble. Il me dit, Georges, dans 3 mois, je veux que tu quittes ta maison. On reprend notre maison. Hein ? Magnifique maison, 350 mètres carrés. Les enfants s'étaient installés et tout. Et nous, on venait de vendre notre maison. La raison pour laquelle on était là-bas, c'était pour l'œuvre du Seigneur. Et il m'a vu, j'étais complètement paralysé. Comment dire à mon épouse, comment dire à ma femme qui vient de vendre son cher, la seule chose qu'elle avait sur terre, sa propre maison, pour servir Dieu. Et là, je vais lui dire, on doit quitter cette maison. Comment dire à mes enfants qui doivent changer cette belle chambre, on ne sait pas où on va et je n'ai pas l'argent. Comment dire à ça ? Et cet homme, il voit, il savait que j'étais pasteur, il s'est moqué de moi, il dit, regarde avec ton Dieu, c'est un problème de ton Dieu. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, Georges, c'est mon combat. Toi, fais ce que tu dois faire. Et donc, j'ai laissé Dieu faire son combat, mais Dieu m'a dit, moi, mon bâton. Je suis allé voir mes enfants, ils sont là, les deux, il y a toute la famille, là, c'est Julien et Pierre qui peuvent le témoigner. Je leur ai dit, les enfants, on a un vrai combat. Il va falloir qu'on s'y accroche. La seule chose que l'on a, c'est ce qu'on a déjà vécu avec le Seigneur. C'est notre bâton. Ce qui change, c'est la forme du combat. Mais cette petite graine, c'est cette petite graine qui nous dit qu'on appartient au ciel. C'est cette petite graine qui nous dit qu'on est de l'autre royaume. Et le diable veut nous attaquer avec le royaume dont on est sorti. Dieu a géré ça. À nous d'entrer dans notre royaume. Et ce n'est pas venu comme ça. On s'est battu. On a prié pendant 5 jours. Et ce n'était pas la petite prière. 5 heures, c'est 2 heures, pardon, 2 heures avec les enfants. Ah, et là, toutes vos tripes, elles sortent. Hein. Le 5e jour, on finit de prier. Et là, j'ai un texte. C'est le texte, c'est la même pensée. Parce que le Seigneur a toujours cette pensée dans la Bible. Du roi qui lance la flèche de délivrance. Et toi, combien de fois tu vas frapper au sol? Et ce roi-là, il frappe que 3 fois. Il lui dit, mais tu as perdu la vie avec la bataille. Tu aurais dû taper au moins 5 fois. Et là, la parole nous est donnée. Vous avez tapé 5 fois. Vous avez gagné. Le téléphone sonne. Le notaire m'appelle et me dit, voilà, le propriétaire veut reprendre la maison. Mais à cause d'une clause dans le contrat, vous avez la maison pour 5 ans. Ah, on a ouvert, on a fendu la mer. La semaine dernière, un homme m'appelle. Ça faisait 10 ans que je n'avais plus vu. Georges, je voulais que tu le saches. De quoi? J'ai réussi mon concours. Élite nationale. Du sport. Il y a 10 ans, tu es venu. Et on attaquait le concours ensemble. Tu priais dans la chambre. Et tu m'enseignais sur ça. Je l'ai raté la première fois. J'ai repassé la 2e fois, tu étais encore là, je l'ai raté. Moi, je l'ai raté. Et tu veux me rappeler? Mais tu m'as donné cette parole. J'ai tenu. Et aujourd'hui, contre ma famille, contre tout le monde qui ne croyait plus, j'ai ouvert le chemin. Alléluia! Dans l'église, un couple qui vient. Là, il y a 2 semaines, cet homme, ils disent, nous, il y a le diable chez nous, venez. Et entre-temps, ils avaient reçu le Seigneur dans leur cœur. Et ils entendent cette parole. Et j'ai dit à cette dame, vous rentrez dans la pièce. Et vous dites, maintenant, je lève mon bâton. Mon bâton? Oui! La communion que tu as avec le Seigneur là. Ça suffit! Ça suffit pour faire fuir le diable! Vas-y! Maintenant, je lève mon bâton. Et je chasse au nom de Jésus! Tu dégages! Vendredi, ils étaient en train de prendre le café. Et elle disait à ma chérie, c'est parti. C'est parti. Maintenant, j'arrête. Parce que je veux qu'on se lève et je veux que vous preniez votre bâton. Je veux que vous repreniez les prières où vous êtes arrêtés. Les endroits, quelle que soit la prière de la maladie, quelle que soit la prière, je veux que vous arrêtez de vous lamenter et que vous dites, Seigneur, j'ai un bâton et je viens. Parce que le Seigneur, il vous a dit quelque chose. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole, de leur témoignage. Les anges veulent se battre pour vous. Ouais. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, viens maintenant. Ouais. Voilà, venez avancer, on va se battre. Moi j'ai des combats aussi. Et j'aimerais vous guider dans ce chant, qui est mon chant sur lequel j'avais un gros combat. Et ce chant était pour moi un chant d'alliance. Et ce chant, c'est l'alliance de Jésus que j'élevais. Et je disais, ici, dans cette situation, c'est vrai que la mer est fermée. C'est vrai que je n'ai plus de solution, que ce soit dans mon corps, dans mes finances, dans ma situation. Mais j'ai une alliance. Le sang a coulé. J'ai une alliance. C'est le sang de Jésus. Et Jésus te dit, vas-y maintenant. Vas-y. Vas-y, à toi d'attaquer maintenant. Alléluia. Ne soyez plus des chrétiens vaincus. Mais la Bible dit, par votre foi, triomphez du monde. Alléluia. Et soyez de ceux que Jésus voulait apprendre. Quand il s'est levé du coussin, il leur dit, gens de peu de foi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu un bâton. Le bâton, ça avait été Jésus qui dit, on va de l'autre côté. Et sur cette parole, Jésus voulait qu'ils se lèvent et qu'ils disent à la mer, tais-toi, va en la ferme maintenant. Jésus a dit, qui va de l'autre côté, tu ne le réveilles pas. Hein. Mes amis, c'est ça que Jésus veut. Parce que c'est là que vous mettez le royaume de Dieu autour de vous. Alléluia. Tu peux me mettre du son, s'il te plaît. Je ne sais pas comment. Il y a tellement de boutons. Ah, je vous le chante une fois. Mais c'est une prière entrée. C'est une prière d'intercession. Et prenez ce combat. Si c'est un combat qui reste depuis des années, qui n'a pas bougé, mais viens rendre gloire à Dieu. Reprends le chemin. Ne lâche pas l'ennemi. Parce que Dieu, il attend derrière. Mais il veut que tu passes. Et la victoire, c'est quand l'ennemi n'est plus là. C'est ça la victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu me dis quand tu es prêt, fils. Oui, j'ai. Oh. une alliance. Oui, j'ai. Tu peux le proclamer devant l'ennemi, devant la situation. Une alliance. Le sang a coulé et rien ne peut l'enlever. Oui, j'ai. Alléluia. Une alliance. Oh, oui, j'ai. Proclame-le et avance. Une alliance. Signé. Oh, signé. Signé du sang de Jésus. Oui, j'ai. Si bémol. Une alliance. Oui, j'ai. Une alliance. Signé d'eau. Signé. Signé du sang de Jésus, et vous verrez désormais dans ma vie la pierre rouler, et vous verrez désormais dans ma vie l'enfer reculer. Et vous verrez désormais dans ma vie la mer s'ouvrir. C'est notre alliance. La mer s'ouvrir. C'est notre alliance. Commence à proclamer. J'ai une alliance. Viens devant. Viens te battre. Viens te battre. Ne reste pas là-bas. Oh. Viens te battre devant. Attends, attendez les enfants. Attendez. Venez vous battre. Jésus dit viens. Venez vous battre. Venez arracher votre victoire. Ne restez pas dans votre place. Ou sinon vous allez avoir des regrets. Est-ce que tu veux voir la victoire de Dieu? C'est fini d'être non, viens te battre. Dieu veut que tu arraches la victoire. C'est toi qui vas le faire. Alors confirme, j'ai une alliance. Et dans cette situation, maintenant j'élève ma communion. J'élève mon bâton. Et je veux me battre. Je veux entrer dans l'alliance de Dieu. Je veux voir la réalisation. Alléluia. Oh. Alléluia. Quel que soit. Proclame et adore le Seigneur. Oui, j'ai. Tu as une alliance. Le sang de la croix est tombé. Une alliance. Proclame-le devant l'ennemi, devant la situation. Oui, j'ai. Une alliance. Signé. Oh, signé. Signé. Du sang de Jésus. Signé. 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 Du sang de Jésus. Et vous verrez désormais dans ma vie la pierre rouler. Et vous verrez désormais
dans ma vie, l'enfer reculer, et vous verrez désormais dans ma vie la mer s'ouvrir. C'est notre alliance. La mer s'ouvrir. C'est notre alliance. Vas-y, Julien, solo. Alléluia, entrez dans vos prières. Reprenez vos prières. Proclamez vos prières. Combattez. Alléluia. 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 C'est votre foi qui gagne. Faites reculer. La mer s'ouvrit, c'est notre alliance. Je suis mort sur la croix pour que tu ouvres la mer. La mer s'ouvrit, c'est notre alliance. Alléluia, reprends la foi, reprends ton bâton et ouvre la mer. S'ouvrit, c'est notre alliance. Alléluia. Hey! La mer s'ouvrit. C'est notre alliance. Vas-y, peuple de Dieu. C'est la victoire que Dieu t'attend. Alléluia. La mer s'ouvrit. C'est notre alliance. La mer s'ouvrit, c'est notre alliance. Alléluia, Antoine. Yeah. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, il est temps de relever la tête. Les mensonges du diable, c'est fini. Vous allez rayonner, multiplier par 100 ce que vous avez commencé. La mer s'ouvrir. Et vous allez voir l'ennemi rugir. Mais plus il rugit, plus Dieu dit, vas-y mon fils, massacre-le. C'est pas parce que l'ennemi est proche de vous qu'il va avoir peur. Parce que vous ouvrez la mer. Mais parce que Dieu a dit, vas-y, moi je lui dis qu'il t'attaque. Parce que c'est toi qui vas l'écraser. Alléluia. Prenez la victoire. J'ai fini, Antoine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus? Antoine m'a appris ça quand même. Et je ne veux pas terminer sans ça. Est-ce que quelqu'un a besoin que le sang de l'agneau vienne dans sa vie? Vous êtes toujours, vous êtes tous déjà dans le Seigneur? Amen.